SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du programme français sur la radio SBS. Bertrand Tungandamé pour vous accompagner ce samedi 15 juin. Dans cette édition, en rétrospective, nous reviendrons sur la création de l'UEFA qui fête ses 70 ans ce samedi. Dans l'actualité sportive, focus sur l'Euro 2024. Nous parlerons également de politique avec un retour sur les élections européennes du week-end dernier et la dissolution de l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, nous retrouvons Valentine Saboureau pour notre rétrospective au micro de Jean-Noël Ducasse.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Rétrospective du 15 juin et Valentine Saboureau revient sur la création de l'UEFA, véritable institution européenne qui tient bon malgré ses 70 ans. Aujourd'hui présidée par le Slovène Alexander Zverin, elle coordonne nombre de compétitions phares dont la Ligue des Champions remportée en début de ce mois par le Real Madrid.
C'est l'histoire d'une institution fièrement européenne dont l'influence ne s'est jamais démentie en 70 ans d'existence. Le 15 juin 1954, 28 associations de football se réunissent en effet à Bâle en Suisse pour valider le principe d'un regroupement à l'échelle continentale. Un comité est alors nommé afin d'en rédiger les statuts définitifs. Quant au nom, il sera choisi 4 mois plus tard, Union of the European Football Associations, UEFA. Créée en 1904, la FIFA réunit les fédérations nationales, mais interdit la création d'instances continentales, ce qui commence à poser sérieusement problème. Au sein de la FIFA, l'influence des pays sud-américains grandit et les Européens cherchent à se regrouper pour la contrer. D'autres considérations pèsent aussi dans la balance. Les fédérations européennes aimeraient jouer davantage, la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques ne leur suffisent plus. Elles voudraient par ailleurs coordonner leurs efforts dans différents domaines comme l'arbitrage, la formation ou les droits de diffusion. En 1953, lorsque la FIFA donne enfin son feu vert aux confédérations, trois hommes sont déjà prêts à livrer la grande bataille de l'Europe footballistique. L'Italien Ottorino Barassi, le Belge José Crae et le Français Henri Delaunay. Vite rejoints par le Suisse Ernst Thomann, l'Anglais Stanley Rouse et l'Allemand Pecco Bowens, ils vont travailler d'arrache-pied à l'émergence de la nouvelle instance. À la faveur de la Coupe du Monde de 1954, 28 fédérations se réunissent donc dans un hôtel à Bâle pour acter la constitution d'un groupe dont la forme reste à déterminer, mais qui se dote immédiatement d'un comité de 6 membres composé de José Crae, Joseph Guerrero, Sir George Graham, Hebe Schwartz, Gustave Sebès et Henri Delaunay. En un an et après plusieurs réunions, un comité exécutif est choisi et les statuts définitifs sont votés. Reste à s'emparer de nombreux sujets, depuis les relations avec la FIFA ou les fédérations nationales et jusqu'aux paris sportifs et compétitions. Alors qu'elle rassemblait 31 membres au départ, elle en compte désormais 55. L'UEFA gère les grandes compétitions continentales masculines, féminines et juniors, qu'elles impliquent les nations, comme l'Euro, ou les clubs, comme la Ligue des Champions. Ces énormes revenus proviennent essentiellement des droits de diffusion, du sponsoring et de la billetterie. Cet argent est ensuite réinvesti dans les clubs ou utilisé à des fins de promotion et développement du football, tout cela en principe dans un esprit apolitique et inclusif. L'UEFA fait partie des 6 confédérations chapeautées par la FIFA. L'Australie, elle, fait partie de la Confédération du football d'Océanie qu'elle a cofondée en 1966 avec la Nouvelle-Zélande. Cette dernière compte aujourd'hui 16 membres, dont la Nouvelle-Calédonie.
Vous aimez le foot ? Branchez-vous sur The World Game. Regardez la A-League en ligne, la Coupe du Monde en direct ou les meilleurs moments sur vidéo. Retrouvez les derniers résultats, les nouvelles et les analyses sur theworldgame.com.au ou sur Twitter.
C'était Kissa, une chanson de David Walter. On prend une petite pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, focus sur le sport.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'Euro, une compétition continentale sous tension. 24 équipes se disputeront le trophée européen. Le sport est avant tout une fête, mais de fortes tensions géopolitiques pourraient avoir un impact sur le déroulé de la compétition. Et pour en débattre, un extrait de Radio Foot International sur RFI, avec autour d'Annie Gasnier, Kevin Vessière, fondateur du site Football Club Geopolitics, les consultants du jour, Yoro Mangara, Patrick Giard, Hervé Penaud et David Finzel.
La guerre est revenue sur le continent depuis le 24 février 2022, depuis aussi que la Russie a donc lancé ses chars pour envahir l'Ukraine, et ça a eu une influence immédiate et directe sur l'Euro 2024.
Oui, tout à fait, puisque à la suite en fait de cette attaque de la Russie contre l'Ukraine, eh bien le CIO a recommandé aux différentes fédérations internationales sportives d'exclure les athlètes et les équipes représentant la Russie. Et donc la FIFA et l'UEFA ont recommandé aussi cette exclusion. Et donc ce qui fait que la Russie était de facto, avec ses clubs, exclue en tout cas des éliminatoires, eh bien déjà de la Coupe du Monde et aussi de l'éliminatoire de l'Euro, ainsi que ses clubs. Et donc ça impacte directement cette compétition où effectivement, avec la participation de l'Ukraine, il y a un contexte géopolitique fort et important.
C'est un peu fou quand on pense à la Coupe du Monde de 2018, pardon, quand on était tous en Russie et que la Russie en plus était arrivée en quart de finale, Hervé.
Oui, oui. Ils avaient battu les Espagnols, hein, si je ne m'abuse, mais non, mais c'est vrai que c'est un contexte.
Parce qu'on se prive d'une bonne équipe, finalement.
Oui, moi, de toute façon, je suis toujours ennuyé quand les équipes sont suspendues comme ça. Hein, je vous le dis honnêtement, que ce soit la Russie, parce que je vois pas pourquoi plus la Russie que d'autres pays en ce moment qui font d'autres choses ailleurs. Et je trouve que c'est le CIO qui intervient comme ça. Mais si vous me faites voter les
non, mais là on parle de l'euro, hein, donc on reste sur l'euro.
Non, mais c'est le CIO au départ qui avait demandé.
C'est lui l'autorité suprême.
Donc, non, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que si le CIO avait demandé un vote général de toutes ces fédérations, je suis pas certain qu'il y aurait eu suspension de la Russie. Voilà. Moi, c'est pour ça que ce jeu avec les pays de cette manière-là, ça me gêne toujours un petit peu. De la même manière, quand il y a eu la Coupe du Monde des moins de 17 ou des moins de 20, où ils refusaient voir Israël, donc finalement
en Indonésie.
Je trouve ça très très bien que la FIFA ait demandé à ce que ce soit délocalisé en Argentine. C'est pas parce que
c'est
vous
ne
voulez
pays
pas
organisateur.
Voir Israël, donc vous, vous décidez de pas organiser la compétition. Mmh. Vous décidez de pas vouloir Israël sur votre sol. Non. Donc je trouve qu'il faudrait peut-être laisser le sport un peu de côté.
Et d'ailleurs, la Russie avait du coup été aussi, il y avait eu des éliminations des clubs russes dans les compétitions européennes et pour la finale de la Ligue des Champions.
On s'en souvient encore, hein, puisqu'après la finale de Ligue des Champions était prévue à Saint-Pétersbourg et puis elle a été délocalisée ensuite à Paris avec effectivement le fiasco sécuritaire qu'on avait pu voir avec la finale.
Alors c'est pas tout à fait inédit parce que en 92, rappelons
j'ai pas dit que c'était inédit.
La Yougoslavie, enfin, qui s'appelait encore comme ça, je crois, à l'époque.
Oui, c'est ça.
Qui avait été remplacée au dernier moment par le Danemark qui avait gagné l'euro. Donc,
mais là, on était dans une situation différente. Enfin, j'en parle dans le livre notamment. C'est parce que là, cette fois, c'est l'ONU qui avait pris des sanctions parce que la Yougoslavie avait bombardé Sarajevo, capitale de la Bosnie, et qui avait déclaré son indépendance. Et là, l'ONU a, en tout cas, voté une résolution avec tous les États membres. Et donc, ils invitaient aussi à exclure les athlètes et les équipes représentant la Yougoslavie. Donc, ça a impacté les JO et surtout, ça a impacté l'euro qui avait lieu 10 jours après. Et donc, finalement, c'est le Danemark qui prend la place.
Ils sont revenus de vacances pour gagner l'euro.
Ils vont avoir un peu cette réputation, effectivement, de vacanciers. Alors que, bon, si on creuse un petit peu, ils étaient quand même encore affûtés. Ouais. Sauf peut-être que le sélectionneur, apparemment, aurait appris cette nouvelle en refaisant sa cuisine. Donc ça, c'est ça. C'est le fait un peu plus cocasse.
Et il s'est brûlé. Sans faire exprès.
Et Kevin, en plus, on s'est retrouvé, par exemple, après cette guerre intérieure et cette implosion de la Yougoslavie, avec des nations qui ont créé leurs équipes de football, et la Croatie apparaît peu de temps après à l'Euro.
Oui, c'est ça. Et puis même la Croatie, c'est déjà, le football en Croatie, c'est quand même extrêmement politique. Mm-hmm. Et déjà, même avant, durant ces différents conflits, il y avait des joueurs qui étaient dans la sélection yougoslave qui avaient finalement fait défection et créé leur propre sélection nationale, notamment pour jouer un match dans les années 91 face aux États-Unis. Les États-Unis qui essayaient de se préparer à la Coupe du Monde, ils vont jouer contre cette sélection de joueurs yougoslaves. Et en fait, ça va avoir lieu à Zagreb. Et il y aura finalement tous les symboles qui seront présents pour montrer que c'est déjà une équipe de Croatie en soi. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça va avoir une image positive pour la Croatie, notamment à l'Euro 96, parce qu'on va apprendre à découvrir la Croatie sous un autre visage que celui de la guerre. Et après, on découvrira encore plus avec la Coupe du Monde 2018 et avec
exactement.
Ce parcours incroyable.
Ouais. Et
c'est sûr que le lien,
éliminé,
de toute façon, le
par
lien,
la France.
On peut pas bien sûr, tout à l'heure, je parlais de laisser les équipes par rapport à tout ce qui se passait politiquement, mais on peut pas enlever le fait qu'il y a un lien entre politique et sport.
Ça, évidemment.
Une naïveté absolue.
D'autant qu'en Russie, l'État finance énormément le sport comme part
comme
de part son
en
soft
Afrique,
power
hein.
entre guillemets.
Non mais moi ce qui
et
me
donc
gêne...
c'est aussi pour ça qu'on a jugé que si la Russie était impliquée dans une guerre sur le continent européen, il fallait que ça rejaillisse sur ses clubs avec des sanctions. Bon
oui,
après ça se discute
j'aimerais
Alors ironie du sort, disons, c'est que l'Ukraine qui n'avait pas pu se qualifier, on s'en souvient, dans la foulée de cette entrée en guerre, elle n'avait pas réussi à décrocher sa qualification pour la Coupe du monde au Qatar, hein. On avait presque
les
tous
barrages.
Envie qu'ils y soient exactement.
Oui,
et ils avaient été éliminés au barrage. Et bien cette fois, ils se sont qualifiés grâce à un barrage. Alors ils ont joué en Pologne, c'était aux dépens de l'Islande. Finalement, le score est de 2-1. On n'aura pas le clapping des Islandais, mais par contre, on aura les Ukrainiens. Ça, c'était le 26 mars dernier, cette qualification.
J'ai
alors, évidemment,
voix, hein.
On parlait de politique. Eh bien, le président Zelensky, dès qu'il y a eu cette qualification de la Sbirna, hein, comme on surnomme l'équipe, c'est le mot ukrainien, tout simplement. Il a remercié les joueurs, il a remercié l'équipe, et il a évidemment souligné l'émotion que ça signifiait pour un pays tout entier, et en disant, ben en gros, quand les Ukrainiens font face à des difficultés, ils ne désistent jamais. Et c'est un peu le moteur aussi de cette équipe. On l'avait vu en 2020, déjà, avec une histoire de maillot et de Crimée, Kevin
Bessière.
Oui, Messière.
Ça, pour l'Euro 2021, quelques jours avant le début de la compétition, l'Ukraine avait dévoilé son maillot. Donc effectivement, sur son maillot avec la carte de l'Ukraine et avec la présence de la Crimée, dans un contexte où il y avait eu l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie.
Alors la guerre n'avait pas encore commencé, hein,
la
c'était
guerre n'avait
six
pas
mois
commencé,
avant,
même s'il
mais
y avait
bon,
déjà une guerre
on
sur le territoire ukrainien.
De la Crimée, oui. Bien sûr.
Annexée. Et il y avait aussi un message politique sur, enfin, un slogan qui était présent sur le col du maillot, qui faisait référence en tout cas aux manifestations pro-européennes de Maïdan en 2014, durant ce contexte-là. Et donc l'UEFA qui était embêtée, puisque effectivement il y avait du politique qui allait s'immiscer dans sa compétition, et la Russie, qui était qualifiée à l'époque, qui avait en tout cas porté réclamation. Et donc finalement, ils ont trouvé un compromis. Finalement, les frontières de l'Ukraine sur le maillot, c'est leurs frontières qui sont connues, on va dire, internationalement. Donc là-dessus, ils l'ont préservé. Par contre, le message politique, enfin, le message qui fait référence à un slogan d'une manifestation politique, ça, ils ont préféré finalement que ça soit enlevé.
Patrick Juillard, et finalement, quand on verra jouer l'Ukraine, et quand on l'avait vu jouer l'Ukraine, on pense toujours quand même à ce contexte, et peut-être que là, ils étaient arrivés jusqu'en quart de finale quand même, les joueurs ukrainiens. C'est leur quatrième euro consécutif, en plus, qualification.
Avec un style de jeu qui rompait un peu avec leur image d'équipe défensive très ennuyeuse qu'ils avaient dans les années 2000-2010. Là, ils avaient trouvé un football un peu plus fluide et agréable à voir, donc qui donnait
retour à leur base.
Pardon.
Retour à leur base.
Oui,
c'est
voilà,
ça,
qui donne parce que Blokhin, Lovanovski, ouais, c'est ça. Il donnait une image d'autant plus séduisante, si on peut dire. Là, la curiosité, c'est quelles conditions de préparation, à la fois matériel et psychologique pour ces joueurs, parce que c'est vrai que de dire l'aspect patriotique peut les transcender, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais
ensuite, on n'a pas l'impression que ça les plombe, en tout cas.
En pensant à des membres de la famille qui peuvent être victimes de bombardements ou de, voilà, de... Bon, tout ça n'est pas facile.
Mais ils ont bon groupe
aussi.
Je
me demande comment ils vont se débrouiller avec ça.
Ils ont bon groupe. Ils ont de très bons joueurs. Zinchenko, Modric à Chelsea. Et puis, je crois aussi que le fait qu'ils aient de grandes stars autour de l'équipe, quand je dis l'entraîneur Rebrov qui était là dans les années 2000 dans le grand Dynamo de Kiev avec Shevchenko, justement les deux, l'un est président de la Fédé, l'autre est entraîneur de l'équipe nationale, ça aide pour que, parce que quand même Shevchenko il est ballon d'or, il connaît le haut niveau, il sait comment se préparer, comment aider l'équipe, et en cela il a mis son ami Rebrov, les deux qui étaient fantastiques dans les années 90-2000 avec le Dynamo de Kiev.
Il a eu aussi l'équipe, donc c'est ça,
il l'avait en 2021.
Oui. Il connaît l'équipe, il connaît les joueurs. Non, et puis c'est vrai que c'est une belle symbolique de toute façon, pour tous les gens, je pense que dès qu'il y aura match de l'Ukraine, il va y avoir une espèce de passion au pays, ça va être magnifique.
On se souvient de ce fameux match perdu de qualification pour le mondial 2022 au Qatar, de ces, alors des images avaient été faites, mais de soldats qui écoutaient dans leurs abris d'alerte ou quoi, mais qui écoutaient à la radio le match et la retransmission, Kevin, c'est ce qu'on avait vu.
Oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est aussi une tribune importante pour montrer que la nation ukrainienne est toujours présente.
Et puis toujours debout.
Les déclarations juste après la qualification de Volodymyr Zelensky le montraient aussi. Il y avait une déclaration qui allait au-delà du sportif, c'était de montrer la résistance de la nation ukrainienne face à la guerre menée par la Russie. Et donc, c'est vrai que là, en plus, dans un euro, c'est vu en mondiovision, ça va donner un supplément supplémentaire, en tout cas pour accompagner l'Ukraine dans cette compétition.
Et l'Ukraine espère bien avoir le rôle d'outsider. Ils sont dans le groupe E avec la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie. Tout est possible. Leur premier match, ça sera à Munich, lundi, le jour où jouera la France, d'ailleurs le 17 juin, et ça sera contre la Roumanie.
Tu voulais comme les oiseaux t'envoler vers le nord, les histoires de corbeaux ne te font pas peur.
Et c'était Le Temps de Fleurs, une chanson de Pomme. Le temps de prendre une autre pause, puis retour sur les élections européennes de la semaine dernière et de la dissolution de l'Assemblée nationale en France.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous êtes bien sur SBS French. On vous propose aujourd'hui de revenir sur l'actualité politique en France après les élections européennes qui ont vu l'extrême droite arriver largement en tête dimanche dernier. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Face à la montée de l'extrême droite, le chef de l'État a décidé de redonner aux Français le choix de l'avenir parlementaire en convoquant de nouvelles élections législatives. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, permise par l'article 12 de la Constitution, c'est un phénomène assez rare dans l'histoire de la Ve République. C'est seulement la sixième fois qu'un président utilise la voie de la dissolution. Charles de Gaulle l'avait fait en 1962 et en 1968. François Mitterrand deux fois également en 1981 et 1988, puis le dernier, Jacques Chirac, l'avait fait en 1997, une dissolution qui s'était soldée par un échec de la droite aux élections législatives et qui avait mené à une cohabitation de 5 ans entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, leader de la gauche plurielle. On vous propose aujourd'hui de revenir sur cette dissolution ratée de 1997. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde et autrice de nombreux ouvrages sur la politique française, notamment sur les années Chirac avec les ouvrages Chirac président, Les coulisses d'une victoire, Seul comme Chirac ou encore Chirac ou le démon du pouvoir. Bonjour Raphaël et bienvenue sur SBS French.
Bonjour.
Alors Raphaël, en 1997, vous êtes déjà journaliste au journal Le Parisien. Vous couvrez l'actualité de l'Élysée. Jacques Chirac est alors élu depuis 2 ans seulement. Les élections législatives ne sont prévues que l'année suivante, en 1998. Mais la popularité du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, est en chute libre. Dans quel contexte survient l'annonce de la dissolution par le président ?
En fait, Jacques Chirac fait une première erreur 2 ans plus tôt. Il est élu en 1995 et là, il devrait se dissoudre. Et il ne le fait pas. En fait, il a une majorité à l'Assemblée qui est bien de droite, mais c'est une droite qu'il a désavouée, qui a plutôt choisi Édouard Balladur et qui finalement s'est rallié à lui seulement à la présidentielle. Or, il aurait dû dissoudre à ce moment-là, il ne le fait pas. Et 2 ans plus tard, alors qu'il a une situation économique très difficile et que son Premier ministre est très impopulaire, là, il choisit de dissoudre. C'est une dissolution à contre-temps. Politiquement, vraiment, c'est une erreur. Elle est décidée exactement d'ailleurs de la même façon que Emmanuel Macron décide aujourd'hui la dissolution, c'est-à-dire que c'est une dissolution décidée dans le secret d'un tout petit comité à l'Élysée. C'est un peu des conseillers qui font de la politique en chambre, si vous voulez, sans regarder vraiment l'état électoral du pays. Et à l'époque, effectivement, Jacques Chirac croit pouvoir surmonter la difficulté dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la difficulté à faire passer ses réformes économiques, à changer de pied et à pouvoir maintenir un Premier ministre très impopulaire. Il croit pouvoir passer par-dessus tout ça en se retrempant dans l'élection. Et évidemment, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que c'est l'opposition qui gagne, c'est la gauche.
Alors au niveau du contexte politique global en France en 1997, vous parliez de l'impopularité du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Qu'est-ce qui a provoqué dans les mois précédents cette dissolution de l'Assemblée nationale, cette impopularité du Premier ministre ?
Oh, c'est un classique du genre, c'est-à-dire que Jacques Chirac est élu en 1995 en faisant 1000 promesses et des promesses essentiellement sociales. D'ailleurs, son thème de campagne, c'est de résoudre la fracture sociale. Donc, il promet que justement, il augmentera les salaires, qu'il maintiendra l'âge de la retraite tel qu'il est, c'est-à-dire un âge de la retraite fixé par les socialistes avant, hein, par François Mitterrand. Il promet monts et merveilles, et puis évidemment, il est confronté à la situation économique du pays, au déficit des comptes sociaux, et il fait un virage à 180 degrés avec Alain Juppé, et il décide le contraire, c'est-à-dire de réformer les retraites et de reporter l'âge de la retraite, d'augmenter les cotisations sociales et de bloquer les salaires. Donc évidemment, son Premier ministre devient très impopulaire.
Alors on parlait justement de cette volonté de réformer les retraites déjà à l'époque. Cette volonté, elle mène à d'importants mouvements sociaux, notamment à des grèves importantes dans le pays.
Il y a les plus grosses grèves que le pays ait jamais connues à cette époque. Effectivement, pendant plusieurs mois, et notamment à l'automne et à l'hiver 96 et 97, il y a d'énormes grèves et vraiment le pays est à l'automne 95 le pays est complètement bloqué, tout le monde est dans la rue, les transports ne marchent plus, c'était tout à fait frappant, je m'en souviens très bien. Et donc effectivement, il est confronté à un refus catégorique du pays de toutes ces réformes. C'est une situation grave pour un président de la République.
Alors à quoi Jacques Chirac s'attend lorsqu'il décide d'emprunter cette voie de la dissolution de l'Assemblée nationale et lorsqu'il décide de convoquer de nouvelles élections législatives en 1997 ?
Il est important de reconstituer le petit groupe qui l'entoure à ce moment-là. Et l'un des artisans de la dissolution est Dominique de Villepin, qui est à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, qui est une espèce de gaulliste flamboyant et très théorique, il faut bien le dire. À l'époque, il est secrétaire général de l'Élysée et il théorise beaucoup la politique sans la vivre. Il n'a jamais été élu. Il a une vision toute gaullienne d'ailleurs, qui est que face aux difficultés, De Gaulle retrempait toujours son pouvoir en faisant des référendums. Donc il imagine que Jacques Chirac doit faire de même. Mais plutôt qu'un référendum, c'est là qu'il imagine cette dissolution. L'idée, c'est de retremper la légitimité du pouvoir dans l'élection. Alors théoriquement, c'est tout à fait louable, évidemment. Le problème, c'est que quand vous avez changé de pied et fait le contraire de ce que vous aviez promis, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jacques Chirac. Donc il croit pouvoir se redonner une légitimité en redemandant au peuple ses suffrages. Mais en redemandant au peuple ses suffrages, et ben le peuple lui répond, ben justement, on ne veut pas de toi.
Alors à l'époque, est-ce qu'on peut dire que cette dissolution, qui vous l'avez dit, est décidée par un petit comité? Est-ce que c'est une surprise, notamment pour les médias, ou est-ce qu'il y a dans les semaines précédentes des rumeurs ou des bruits de couloir qui laissent supposer une dissolution prochaine de l'Assemblée? Ou est-ce que c'est vraiment finalement une surprise un peu pour tout le monde?
Ah oui, je vais même vous raconter une anecdote tout à fait personnelle. À l'époque, j'ai donc 32 ans. 33 ans, donc je suis pas très aguerrie. Or, Dominique de Villepin teste sur quelques journalistes, sur le journaliste de Libération qui a 25 ans de plus que moi, qui est un homme très très bien, Gilles Bresson, sur une jeune journaliste du Figaro qui est à mon âge, et sur moi au Parisien. Il teste l'idée de la dissolution. Et je trouve ça tellement irrationnel, tellement fou, que je fais un papier, mais c'est un papier sans en faire le gros titre. J'aurais dû faire la une, évidemment, du journal. Et c'est mon confrère de Libération qui est plus aguerri que moi qui comprend que s'ils testent ça, c'est qu'ils vont le faire. Donc, j'ai fait un ratage journalistique par excès de rationalité. Vous voyez, donc, je trouvais ça tellement absurde que je n'y ai pas cru. Et d'ailleurs, ça a été une surprise pour tout le monde. Et tout de suite, à partir du moment où la dissolution a été décidée, on a compris que la droite n'allait pas gagner.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Fin de cette première partie de ce retour sur les élections européennes du week-end dernier qui ont vu une montée en puissance du Rassemblement national en France. Temps de passer à une autre pause et après la pause, dans la deuxième partie de cette interview, on parlera des conséquences qu'en a tirées le président de la République, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale et appel à des élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Alors les législatives, elles sont organisées les 25 mai et le 1er juin 1997 et elles voient la victoire d'une coalition de gauche, la gauche plurielle, qui obtient la majorité à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac nomme alors comme Premier ministre Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est le début d'une cohabitation de 5 ans, mais pour Jacques Chirac et la majorité, on peut parler véritablement d'un échec cuisant.
Ah oui, c'est certain. Et en même temps, pour lui, ça n'a pas été une mauvaise période. C'est-à-dire que d'abord, il n'était plus aux manettes, donc c'est toujours beaucoup plus confortable, évidemment. C'est la gauche qui a dû assumer toutes les réformes difficiles. Et puis, il s'est refait une forme d'image sympathique qui lui a permis d'ailleurs de se représenter une deuxième fois en 2002. Mais c'est vrai que la cohabitation, c'est l'exercice du pouvoir du président bridé. Donc, il n'avait plus quasiment aucun pouvoir, sauf le pouvoir de représenter la nation à l'étranger. Ce qui est déjà pas mal, mais avec toujours flanqué du ministre des Affaires étrangères, qui était celui de Lionel Jospin.
L'idée d'une nouvelle cohabitation en 2024, vous y croyez d'ici un mois?
Ah bah oui, bien sûr. D'abord, là, on a plusieurs hypothèses qui se dessinent. Soit le RN gagne l'élection et a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, les institutions obligent le président à nommer un premier ministre issu de cette majorité. Donc le premier ministre vient du RN, il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il fait passer ses réformes. Soit deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse, à vrai dire, quand on regarde la carte électorale, qui est aujourd'hui, mais tout peut changer, qui est aujourd'hui la plus probable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité absolue. Il y a une majorité relative. Alors là, ça laisse une forme de choix possible. Enfin, il est obligé de choisir quand même un premier ministre qui convienne à cette majorité relative. Donc, soit un rallié de l'UMP qui est rallié au Rassemblement national, soit un semi-Rassemblement national. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être des négociations très difficiles. Et là, ça va être très difficile de toute façon, quoi qu'il en soit, pour le nouvel gouvernement, parce qu'il n'y aura pas une majorité absolue pour faire passer les réformes. Et là, ce sera très compliqué. Ce sera un coup de 49-3. Et comme il n'y a plus de menace de dissolution, puisque quand on dissout, on ne peut plus redissoudre pendant un an, ça veut dire que très probablement, le pays sera bloqué. En tout cas, en termes de réforme. Hein. Donc, voilà ce qui peut se profiler. Soit, alors évidemment, hypothèse là, moins probable, tout d'un coup, Renaissance peut de nouveau avoir une majorité ou la gauche a une majorité. J'avoue que j'y crois beaucoup moins.
En comparaison avec la dissolution de 1997, est-ce que celle-ci, annoncée par le président Emmanuel Macron dimanche dernier, est-ce qu'elle vous surprend davantage ou moins que celle de 1997?
Ah bah elle est exactement comme celle de 1997. Elle est faite par un petit groupe de conseillers, elle est décidée par un petit groupe de conseillers à contre-temps avec un président impopulaire. Donc elle lui ressemble beaucoup. Ce qui change, c'est le paysage politique. C'est-à-dire qu'en 1997, il y avait le Front National était déjà très haut hein, mais il y avait deux grandes forces. Il y avait la droite, le RPR, UDF, enfin l'UMP à l'époque. Et puis la gauche, la coalition de gauche, et d'ailleurs la coalition de gauche l'a emporté sans difficulté. Aujourd'hui, le paysage politique est beaucoup plus fragmenté. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La droite UMP s'est effondrée, la gauche est divisée. Enfin là, ils essaient de se réallier pour les élections, mais leurs électeurs sont divisés. Et Renaissance, le parti du président, est impopulaire. Donc et vous avez un Rassemblement national qui a le vent en poupe, mais dont le système électoral des législatives n'est pas le bon système pour lui. Donc c'est très compliqué. On a un paysage beaucoup plus fragmenté. Mais les conditions de la dissolution ressemblent beaucoup à celles de 97. Oui.
En termes de risque d'échec, Emmanuel Macron ne disposait que d'une majorité relative à l'Assemblée lorsqu'il a annoncé la dissolution. Diriez-vous que les risques d'échec sont encore plus importants pour lui aujourd'hui qu'ils ne l'étaient pour Jacques Chirac en 1997?
C'est-à-dire que Jacques Chirac, il avait un seul risque, la cohabitation avec la gauche, en fait. Tandis que là, Emmanuel Macron, il a plusieurs risques. La cohabitation avec l'extrême droite, une forme de cohabitation avec une majorité étiolée, c'est ça qui est compliqué. Et c'est surtout pour le pays que c'est un risque, parce que c'est ça qui est difficile. Pour Jacques Chirac, si vous voulez, il y avait une possibilité, soit il l'emportait, et bon, bah, il avait son équipe toute prête, soit la gauche était déjà prête, et d'ailleurs, elle a montré qu'elle était prête à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'était beaucoup moins risqué pour le pays. Après, qu'on soit de droite ou de gauche, on pouvait être mécontent du résultat, bien sûr. Mais c'était pas tout à fait la même chose. Tandis que là, on a une situation incroyablement mouvante et fragile. Et donc, vu la situation du pays, c'est-à-dire avec un endettement très important, des difficultés sociales très grandes, une guerre en Europe. Hein, là, ça peut changer beaucoup de choses, car évidemment, notamment sur la politique étrangère, par exemple, ça peut changer du tout au tout. Si le Rassemblement national est au pouvoir, c'est pas du tout la même chose. C'est un parti pro-russe, donc c'est pas du tout la même chose que si c'est Renaissance ou si c'est la gauche ou la droite. Vous voyez?
Alors finalement, en tant qu'observatrice aguerrie de la vie politique française, comment est-ce que vous analysez la décision d'Emmanuel Macron? On a vu dans les médias ces derniers jours que cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale a été qualifiée de suicide politique, de jeu dangereux ou encore de seule solution possible. Comment vous estimez ou comment est-ce que vous analysez cette décision?
À vrai dire, il nous a montré ces dernières années une forme de caractère. Donc et aussi de mode de fonctionnement hein, du pouvoir. Il exerce le pouvoir très seul. C'est un pouvoir solitaire. Il a très peu de conseillers politiques qui sont des politiques aguerris. Je veux dire, il n'a même pas prévenu son premier ministre qu'il allait décider la dissolution. Il l'a prévenu une heure avant. Donc, il a un exercice du pouvoir extrêmement solitaire avec juste un tout petit groupe de conseillers dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ne sont pas des élus. Donc ça c'est très important. Donc il y a un exercice du pouvoir solitaire, il y a une forme de goût pour le coup de poker, le risque. jouer son batou, il le fait tout le temps, à vrai dire. Donc, il aime ça. Mais évidemment, ça marche plus ou moins bien. Donc, ça lui ressemble. Et en même temps, c'est incroyablement risqué. Et surtout, c'est contraire à tout ce qu'il a professé, puisqu'il avait dit « je serai le président qui aura fait reculer l'extrême droite » et il est au contraire celui qui peut avoir mis l'extrême droite au pouvoir.
Mmh. Et pour rappel, on aura les résultats de ces élections législatives le 7 juillet prochain. Le premier tour, ce sera le dimanche 30 juin. On vous tiendra informé, bien évidemment, sur SBS French. Merci Raphaël d'avoir été avec nous pour revenir sur cette dissolution ratée de 1997 et analyser également la dissolution annoncée de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche dernier. Et à bientôt peut-être sur SBS French.
À bientôt. Au revoir.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Le footing asthmatique à courir la carrière. Sur un fil, on traverse alors, sur un vent de travers, parce qu'on reste ce que nous sommes.
C'était Sémaphore par Hervé. À présent, on découvre la vie de la cantatrice d'opéra Maria Callas à travers une nouvelle pièce de théâtre.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Miranda Middleton. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Et vous êtes la directrice adjointe de Masterclass. C'est une pièce théâtrale à propos de la chanteuse d'opéra, la cantatrice Maria Callas, qui est présentée au Ensemble Theatre à Sydney jusqu'au 20 juillet prochain. Peut-être d'abord, parlez-nous de cette pièce qui, d'après ce que je comprends, est dirigée par Liesl Badorek.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, ouais, c'est une pièce qui raconte une partie de la vie de Maria Callas. C'est la partie de sa vie quand elle donnait des cours aux étudiants, des chanteurs, des chanteuses d'opéra. Et donc, voilà, on est dans le cours avec Maria Callas et trois étudiants qui chantent pendant la pièce. Et voilà, comme vous avez dit, c'est dirigé par une femme extraordinaire, à mon avis, qui s'appelle Liesl, oui.
Et donc, l'année dernière, on a marqué le 100e anniversaire de la naissance de Maria Callas. Alors, peut-être pour nos auditeurs, un petit mot sur cette grande dame de l'opéra. Elle est née à New York, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, elle était grecque d'origine.
Oui.
Et elle a vécu une vie assez extraordinaire. Elle était connue comme chanteuse d'opéra pour être quelqu'un qui ressentait des émotions très fortes. Et pendant cette pièce, elle parle beaucoup de l'importance d'écouter la musique quand on chante. Et ouais, c'est ça. Elle adorait l'opéra et elle mettait beaucoup d'importance sur l'art, sur la beauté, le théâtre, les histoires. Et donc voilà. Mais en fait, elle est morte assez jeune. Donc sa vie était formidable, mais assez courte.
Est-ce que sa carrière vous fascine personnellement?
Oui. En fait, je ne connaissais pas très bien sa carrière avant de commencer cette pièce. Mais ce que je trouve c'est très important, c'est la façon dont elle a dû faire des sacrifices pour sa carrière. Donc, en fait, elle avait des troubles relationnels, elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas beaucoup une vie au dehors du théâtre.
Et parlez-nous du casting. Alors, qui joue le rôle de Maria Callas dans Masterclass?
Oui. Donc, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que, en fait, le personnage de Maria Callas, parce que c'est à la fin de sa carrière, elle n'avait pas vraiment une voix. Elle ne pouvait plus chanter très bien. Donc, en fait, quand on parle de casting, ce n'est pas une chanteuse d'opéra qui joue le rôle de Maria Callas. C'est en fait une actrice qui s'appelle Lucia Mastrantoni. Et elle peut chanter, mais elle ne chante pas pendant la pièce. Donc, c'est Lucia qui est le centre de la pièce, on dirait. Et puis, nous avons un chanteur d'opéra et deux chanteuses d'opéra avec Lucia. Et en plus, on a une pianiste et un autre musicien qui joue du cello.
D'accord. Et il y a des autres personnes qui font partie du casting sur scène?
Donc, en fait, moi, il y a six acteurs dans la pièce et c'est tout. Donc, juste six.
Oui.
Ouais.
Et combien de temps dure le spectacle?
Oui, c'est presque 2 heures, en fait.
2 heures. Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent en ce moment pour venir découvrir Masterclass, venir découvrir la vie de Maria Callas?
Oui, absolument. Personnellement, je trouve que cette pièce est assez belle. Il y a beaucoup le langage est très riche. Les acteurs sont formidables. Et je trouve que la musique dans la pièce, ça nous aide à transcendre notre expérience dans ce monde. En ce moment, ça nous transporte ailleurs, et je trouve qu'en ce moment, ça, c'est un don, c'est un cadeau. Donc, j'encourage les écouteurs de venir découvrir cette pièce.
Alors, on va profiter de l'occasion pour parler de Miranda Middleton. Alors, parlez-nous de votre parcours professionnel dans le monde du spectacle. Vous avez débuté quand, où et comment?
Oui, donc, en fait, j'ai fait le master de directing à NIDA, oui, en 2019. Et puis, il y avait quelques ans pendant COVID où il n'y avait pas beaucoup de théâtre. Donc, j'ai commencé à écrire des comédies musicales. J'ai 2 comédies musicales qui se développent en ce moment. Mais ça fait 4 ans maintenant que je suis rédactrice de spectacles. J'adore le théâtre avec de la musique et aussi de la danse. J'étais danseuse quand j'étais jeune. Et j'apprécie beaucoup le texte. Donc, voilà, c'est moi. Mais cette année, je suis, ça s'appelle Sandra Bates Director's Awards Recipient at Ensemble Theatre. Oui. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis en répétition et j'assiste Liesl avec Masterclass.
Parlons un petit peu de vos autres projets pour après Masterclass.
Oui, après Masterclass, je vais aussi être rédactrice adjointe sur le comédie musicale Little Women à Hayes Theatre, aussi à Sydney. Et puis après ça, je vais retourner à Ensemble Theatre pour une nouvelle pièce australienne qui s'appelle The Queen's Nanny. Et ça, c'est avec Priscilla Jackman, qui est une autre femme extraordinaire, à mon avis. Et puis, finalement, cette année, je vais diriger une saison de ma propre comédie musicale qui s'appelle Paper Stars. Et ça raconte la vie de l'écrivain de Mary Poppins, qui était en fait australienne, P.L. Travers.
Et on espère vous avoir à nouveau sur les ondes de Radio SBS en français pour nous expliquer un petit peu tous ces spectacles que vous avez en tête. Et je suis curieux de vous demander cette question. Où est-ce que vous avez appris le français? En Australie?
Oui, c'est ça. Je l'ai appris quand j'étais au lycée. J'ai fait un échange à Lyon quand j'avais 16 ans. Et en fait, je suis restée en contact avec la famille d'accueil.
Oui.
Donc, et puis l'année dernière, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques pendant 5 semaines, je me promenais à la campagne française. Donc, j'essayais de pratiquer la langue.
Formidable. Et je rappelle qu'on est avec Miranda Middleton, qui est la directrice adjointe de Masterclass. Et donc, Masterclass, c'est jusqu'au 20 juillet prochain. C'est au Ensemble Theatre à Kirribilli, à Sydney, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Miranda Middleton, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS en français. Bon courage et bonne continuation.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et à la prochaine fois. Merci.
Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Voilà, c'est tout pour notre programme en français de ce samedi 15 juin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel après-midi et à très bientôt.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.